en les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Omarum. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre rencontre de ce soir, qui est autour de l'étude de la voie du Bouddha, et ce soir particulièrement, la nature de l'esprit. Nous sommes au troisième chapitre, lors de notre dernière session dans cette série, nous avions vu un esprit et deux états, et nous avions terminé par la nature de Bouddha est présente en tout vivant, mais voilée par des illusions adventices. Celles-ci purifiées, ils sont vraiment Bouddha. Ils, ce sont les vivants. Dans la nature de l'esprit, c'est une expérience, un état. Le chapitre commence en exergue par une citation des souhaits du Mahamudra, Karmapa Rinzhong Dorje. Toutes les réalités sont des projections de l'esprit. Quant à l'esprit, il n'est pas d'esprit, il est vide d'essence. Étant vide, il est sans obstruction, tout peut y apparaître, par un parfait examen, que la conviction s'établisse. Donc, il s'agit d'un examen, d'une observation de la nature de l'esprit. De l'esprit et de sa nature. Là, ce que exprime ici Rinzhong Dorje est en rapport avec la pratique de Vipassana, l'atton, dans le contexte du Mahamudra, qui est justement de partir à la recherche, en quête de l'esprit et de sa nature. Sache ce que tu es, sache ce qu'est ton esprit, sa nature. Et tu connaîtras la déité et tout phénomène. Ici, trois étapes dans la citation de Rinzhong Dorje. Les réalités sont des projections de l'esprit. Alors, les réalités, ce sont les phénomènes, ce que nous expérimentons comme autres. Ces phénomènes, objets, autres, sont une fabrication de notre esprit, sont une projection de notre esprit. Leur altérité est fabriqué par l'esprit comme projection. ça nécessite examen, considération, pour s'en bien rendre compte, sans tomber dans un extrême. Les apparences sont esprit. Quant à l'esprit, il n'est pas d'esprit. Allons bon. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Il est vide d'essence. Il n'y a pas d'esprit. Il est vide d'essence, c'est-à-dire il est vide de quoi que ce soit. On ne peut pas trouver l'esprit comme étant ceci, comme étant cela, ou comme quelque chose que l'on puisse déterminer, que l'on puisse saisir, que l'on puisse appréhender. Il n'est pas réductible à une détermination, quelle qu'elle soit. Et alors, même quand on dit qu'il n'est pas réductible à une détermination, quelle qu'elle soit, on pourrait supposer qu'il existe hors de toute détermination, mais quelque chose qui est introuvable, que personne n'a jamais trouvé, est ce que l'on appelle quelque chose qui n'existe pas. Et c'est dans ce sens qu'il n'y a pas d'esprit. Mais vide, dans sa vacuité, alors c'est là qu'il y a une certaine... Est-ce que l'esprit existe dans sa vacuité? Est-ce que la vacuité existe? En tout cas, étant vide, l'esprit, il est sans obstruction. C'est un domaine cognitif des possibles en lequel tout peut apparaître. Tout peut apparaître. Toutes les expériences, tout. Dans les apparences, les réalités sont esprit, l'esprit est vide. Et en même temps, cette vacuité n'est pas un rien. Elle est pleine d'une potentialité, de potentialité en lesquelles tout peut apparaître ou qui apparaissent comme toute chose et toute expérience. L'esprit n'existe pas, la nature de l'esprit est le domaine des possibles. Par un examen parfait, une observation, que la conviction s'établisse. Bon, c'est une situation difficile, une citation difficile, profonde. Vaste et profonde. Et Vajra Dharakalambache nous dit « L'expérience de la nature essentielle de l'esprit se situe au-delà des mots. » C'est une expérience au-delà des mots. Vouloir la décrire et se trouver dans la situation d'un muet qui essaierait d'exprimer la saveur du bonbon qu'il a dans la bouche. Il a la saveur du bonbon, pleine, mais il n'a pas, muet qu'il est, la capacité de l'exprimer en mots. Il n'a pas... les mots pour la dire, cette saveur. Et on n'a pas les. Il nous manque. Dans l'expression verbale, la capacité d'exprimer ce qu'est véritablement la nature de l'esprit. Les concepts et les mots sont, dans leur nature même, inadéquats. Néanmoins, je vais vous livrer quelques conclusions qui suggèrent un aperçu de cette expérience. La nature de l'esprit peut être envisagée suivant trois perspectives ou trois dimensions essentielles qui sont à la fois complémentaires et simultanées. Comme trois dimensions, quand on parle des trois dimensions de l'espace, l'espace défini par un repère orthonormé avec longueur, largeur, hauteur. C'est trois dimensions. Simultanée, concomitante, complémentaire. Alors, là, nous sommes dans un autre... d'autres référentiels, mais il y a aussi trois dimensions qui sont la vacuité-ouverture, la clarté luminosité, lucidité et les capacités sans limite. Il y a beaucoup de façons de voir ces trois dimensions, de les dire, de les comprendre, de les expérimenter. Elles sont au fond de la compréhension de l'esprit et de la nature de l'esprit, c'est-à-dire qu'elles sont au fond et au centre de toute la compréhension du Dharma. Donc, néanmoins, allons donc dans cet aperçu de cette expérience. La vacuité ouverture. Donc, il y a déjà, là, une petite remarque de traduction. Vacuité, ouverture. Vacuité a beaucoup de sens. La vacuité a beaucoup de sens complémentaire. C'est pas des sens divergents. Ce sont même des sens franchement convergents, mais qui disent différents aspects d'une même réalité, d'une même expérience. On peut dire la vacuité comme interdépendance, on peut dire la vacuité comme absence, on peut dire la vacuité comme ouverture. C'est suivant les situations, les contextes. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais la première qualité, donc, ouverture, et dans l'expérience yogique, vacuité peut se dire, peut se sentir dans et par l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'on met vacuité, ouverture. Nous allons y revenir. L'esprit, je suis le texte, est ce qui pense. Je suis, je veux, je ne veux pas. Donc, l'esprit est ce qui pense. L'esprit est le penseur. Le penseur qui pense qu'il est, je suis. Je suis car je pense donc je suis. Ça me rappelle quelque chose. Ou je veux, je ne veux pas. Cet esprit, c'est le penseur, l'observateur, le sujet de toute expérience. Le sujet, moi, je suis l'esprit. Ah. Oui, je suis l'esprit. Et en même temps, j'ai un esprit aussi. Mais si jamais j'ai un esprit, qui c'est je qui a un esprit ? C'est aussi l'esprit. Donc, je suis l'esprit. D'un certain point de vue, cet esprit existe puisque je suis et que j'ai une capacité d'action. Alors, a priori, hein, je suis, j'ai l'impression d'être. J'ai le sentiment d'être, d'exister. Je me vis comme existant dans cette intuition d'être, comme on dit certaines fois. Donc, de ce point de vue, l'esprit que je suis existe, je suis. Et je a une capacité d'action. Je peux me gratter la tête, je peux parler, agir. Donc, je peux voir, je peux regarder, je peux entendre, écouter. Si je décide de faire quelque chose avec les mains, je peux le commander à mon corps, et ainsi de suite. En ce sens, l'esprit, avec ses pouvoirs et ses facultés, semble exister. Mais si nous le cherchons, nous ne pouvons le trouver nulle part en nous, ni dans notre tête, ni dans notre corps, ni où que ce soit, ou comme quoi que ce soit. Donc là, il y a un travail de recherche, d'enquête. De quête. Et c'est même la quête, la quête, avec un grand Q. La quête de ce que je suis et de ce qu'est l'esprit que je suis. Et on ne le trouve pas comme quelque chose de déterminable. De cet autre point de vue, il semblerait qu'il n'existe pas. Ainsi, d'un côté, l'esprit semble exister, mais d'un autre, il n'est pas quelque chose qui existe vraiment.
Come soon, go away, Jay. No one.
Connaissez cette parole célèbre de Milarepa, que le chancelier senior de l'université Rimé a rendu célèbre en faisant une expression de la voix du milieu. Alors, entre l'existence et la non-existence, être ou ne pas être, est-ce que l'esprit est ou est-ce que l'esprit n'est pas ? C'est la question. Et en français, il n'aurait pas dit
les mâles phénomènes des trois mondes du cycle de l'existence.
n'existent pas, mais apparaissent. Quel grand prodige, c'est merveilleux. Donc, n'existent pas, mais apparaissent. Tous les phénomènes des trois mondes, ça veut dire tous les phénomènes de la manifestation, de l'existence du samsara, etc. Tout phénomène, ça, ils n'existent pas, mais ils apparaissent. Et c'est là qu'il y a cette articulation subtile et profonde de la voie du milieu, de l'apparition ou de l'émergence de phénomènes qui n'existent pas. Alors, l'intelligence est sur qu'est-ce que c'est qu'être. Et si on cherche les phénomènes, on ne trouve pas, on leur trouve des qualités, mais on ne trouve pas un phénomène qui existe de façon indépendante, qui existe de façon réelle en soi, de soi par soi. C'est ça les distances. Être, alors, c'est ainsi que, par exemple, Thich Nhat Hanh a dit, rien n'est, tout intérêt. Tout intérêt. J'intersuis, tu intérêt, il intérêt, nous intersommes, etc. Donc, il n'y a rien qui soit, mais tout intérêt. C'est ainsi que les phénomènes n'existent pas, mais apparaissent. Ils apparaissent en intéressant, si on peut dire, en interdépendance. C'est toute la vision de l'émergence en interdépendance. On chante un petit peu, hein, pour se souvenir de cette phrase célèbre.
N'aimant les phénomènes des trois mondes du cycle de l'existence n'existent pas mais apparaissent. Quel grand prodige, c'est merveilleux. Bis. N'aimant les phénomènes des trois mondes du cycle de l'existence n'existent pas mais apparaissent. Quel grand prodige, c'est merveilleux.
Terre, tout ensemble.
Aimant les phénomènes des trois mondes du cycle de l'existence n'existent pas mais apparaissent. Quel grand prodige, c'est merveilleux.
Ainsi de tout phénomène et de l'esprit. Aussi longues et poussées que soient nos investigations, nous ne pourrons jamais lui trouver de caractéristiques formelles. Il n'a ni dimension, ni couleur, ni forme, ni quoi que ce soit de tangible, cet esprit. C'est en ce sens qu'il est dit vide. Parce qu'il est essentiellement indéterminable, inqualifiable, au-delà des concepts du mental, et en cela comparable à l'espace, tout ouvert, sans centre ni périphérie, l'espace tout ouvert, sans centre ni périphérie, dont le centre est partout et la périphérie nulle part, sans centre ni périphérie. Comme une boule de cristal infinie qui englobe tout l'espace. Sans extérieur ni intérieur. Dans cette ouverture, cette vacuité, cette nature indéfinissable est vacuité-ouverture. C'est la première qualité essentielle de l'esprit. Elle est au-delà de la connaissance illusoire qui, elle, nous fait expérimenter l'esprit comme un moi pourvu des caractéristiques que nous nous attribuons habituellement. Attention, on reprend. Donc, la vacuité-ouverture, première qualité essentielle de l'esprit, première dimension de la nature de l'esprit, elle est au-delà de la connaissance illusoire, au-delà de la connaissance illusoire des noms, des formes, des concepts, connaissance illusoire qui, elle, nous fait expérimenter l'esprit habituellement comme moi, comme un moi pourvu des caractéristiques qui sont celles comme quoi je me vis, pourvu des caractéristiques que nous nous attribuons habituellement. Je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis maigre, je suis fort, je suis faible, je suis blanc, je suis noir, ou j'ai telle et telle qualité, ou je m'appelle un tel, une telle, etc. Toutes ces qualités. Mais il faut être vigilant, car dire que l'esprit est vacuité-ouverture n'est pas le réduire à quelque chose d'inexistant au sens d'inopérant. L'esprit est bien vide et ouvert, mais ce n'est pas dire qu'il soit inexistant, inopérant. Il est en l'esprit une opérativité, une potentialité. Et c'est ce que nous allons voir dans les autres qualités. Comme l'ouverture de l'espace, l'esprit pur n'est pas localisable. La nature de l'esprit n'est pas localisable. Il est omniprésent et omnipénétrant. Il embrasse et pénètre toute chose. Et cette dimension omnipénétrante, omniprésente de la nature de l'esprit est aussi son caractère absolu. L'absolu omniprésent. Et cette nature de l'esprit, ou cet esprit pur, ce sont des synonymes ici, de plus est au-delà du changement. Au-delà du changement, des naissances et des morts. Sa nature vide est indestructible et intemporelle, éternelle. Donc voilà la première qualité de l'esprit. Et si l'esprit est intemporel, nous nous inscrivons présentement dans la temporalité. C'est pourquoi je m'arrêterai à cette première qualité de l'esprit. Un moment de contemplation, justement, dans un repos ouvert. Tout ouvert, comme l'espace, qui n'est ni à s'imaginer ni à fabriquer, mais qui est la nature même, l'état même de la cognition lorsqu'il n'est pas en celle-ci de saisie, de saisisseur. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne soirée, que tout soit propice et au revoir.